Chapitre 5 Le gouffre. Non loin de la caverne, grand laboratoire de la nature où l'on voit un ruisselet se former goutte à goutte, s'ouvre un vallon tranquille au fond duquel jaillit une autre source. C'est aussi du rocher qu'elle sort, mais ce rocher ne se dresse point à pic comme celui de la grande caverne. Il s'est affaissé à la suite de quelque écroulement. Du gazon, des plantes sauvages, quelques arbres croissent sur ses pentes. À sa base, autour de la claire fontaine, se sont assemblés de grands arbres, dont le branchage entremêlé se balance d'un même mouvement harmonieux et rythmé sous la pression de la brise. Tout est calme et charmant dans ce petit recoin de l'univers. Le bassin est transparent, presque sans rides, et l'eau, sortie d'une arcade de quelques pouces de hauteur, s'y épanche sans bruit. Penché sur cette eau qui scintille au soleil, je cherche à pénétrer du regard l'ombre d'où elle jaillit, et j'envie la petite araignée d'eau qui s'élance en patinant et va fureter dans le creux du rocher. À l'entrée, je vois encore quelques saillies du fond, des cailloux blancs, un peu de sable qui se meut lentement sous le flot rapide. Plus loin, je distingue les plissements des vaguelettes et les petites colonnes de pierre qui supportent la voûte. Éclairées vaguement par le reflet des rayons égarés, elles paraissent trembloter dans l'ombre. On dirait qu'un réseau de soie flotte sur elles en légères ondulations. Au-delà, tout est noir. Le ruisseau souterrain ne se révèle que par son murmure étouffé. Quelles sont les sinuosités de l'eau, par-delà le détour où le premier reflet de lumière vient la caresser? Ces courbes du ruisseau, je cherche à les retrouver par l'imagination. Dans mes rêves d'homme éveillé, je me fais tout petit, haut de quelques pouces à peine, comme le gnome des légendes, et sautant de pierre en pierre, m'insinuant au-dessous des protubérances de la voûte, je dépasse tous les confluents des ruisselets en miniature, je remonte les imperceptibles filets d'eau, jusqu'à ce que, devenu moi-même un simple atome, j'arrive enfin à l'endroit où la première gouttelette suinte à travers le rocher. Pourtant, sans nous transformer en génie, comme le faisaient nos pères au temps de la fable, nous pouvons, en nous promenant au milieu de la campagne, reconnaître à la surface du sol des indices qui révèlent le cours de notre ruisseau caché. Un sentier tortueux qui commence au bord de la source monte sur le flanc de la colline en contournant les troncs d'arbres, puis disparaît sous l'herbe dans un pli de terrain et gagne le plateau, couvert de champs de blé. Bien souvent, quand j'étais un écolier sauvage, je montais à la course puis je redescendais ce sentier en quelques bonds. Parfois aussi, je m'aventurais à une certaine distance sur le plateau, jusqu'à perdre de vue le bosquet de la source. Mais à un angle du chemin, je m'arrêtais court, n'osant aller plus avant. À mes côtés, je voyais s'ouvrir un abîme en forme d'entonnoir rempli de broussailles et de ronces entremêlées. De grosses pierres jetées par les passants, ou bien entraînées sur la déclivité par les fortes pluies, pesaient çà et là sur le feuillage poudreux et meurtri. Au fond se croisaient quelques rameaux, mais entre les feuilles vertes, je distinguais le noir effrayant d'un gouffre. Un bruit sourd s'en échappait incessamment, comme la plainte d'un animal enfermé. Aujourd'hui, j'aime à revoir le grand trou, entre guillemets. Je me hasarde même à y descendre, au risque d'effrayer les couleuvres qui déroulent prestement leurs anneaux entre les pierres. Mais jadis, avec quelle terreur nous tous, petits enfants, nous regardions ce puits sinistre au bord duquel venait s'arrêter la charrue. Un soir, par un beau clair de lune, il me fallut seul passer près de l'endroit fatal. J'en frissonne encore. Le gouffre me regardait. Il m'attirait. Mes genoux ployaient sous l'effort et les tiges des arbustes s'avançaient comme des bras pour m'entraîner dans l'ouverture béante. Je passais pourtant en frappant bruyamment de mes talons le sol caverneux. Mais derrière moi, un long géant fait de vapeur surgit tout à coup. Il se pencha pour me saisir et le murmure de l'abîme me poursuivit comme un rire de haine et de triomphe. Ce gouffre, je le sais maintenant, c'est un soupirail ouvert au-dessus du ruisseau. Et le bruit sourd qui s'en échappe est l'écho lointain de l'eau clapotant contre les pierres. À une époque inconnue, même avant que les premiers documents de propriété n'eussent été rédigés par les notaires du pays, une des assises de rochers qui recouvrent la vallée souterraine s'était effondrée dans le lit du ruisseau, puis les terres manquant de base avaient été graduellement entraînées vers la plaine. Peu à peu, le grand trou s'était creusé et les pluies courant le long de ses pentes lui avaient donné la forme d'un entonnoir à peu près régulier. Les paysans des environs, qui pensent toujours à leur récolte, l'appellent le boitou, parce qu'il boit en effet toutes les pluies, toutes les averses qui pourraient fertiliser leurs champs. L'eau surabondante, tombée sur le plateau, s'épanche dans le trou en filet jaune d'argile pour reparaître ensuite dans la source, dont elle trouble pendant quelques heures la pureté de cristal. Le gouffre qui m'effrayait tant dans mon enfance n'est pas le seul qui se soit ouvert au-dessus des galeries profondes. En suivant la partie la plus basse d'une sorte de plissement du sol dans le plateau, on passe à côté de plusieurs autres cavités qui indiquent aux promeneurs le cours souterrain des eaux. Ils diffèrent tous de forme et de grandeur. Les uns sont d'énormes puisards où des fleuves disparaîtraient en cataractes, les autres sont de simples affaissements du sol, charmants petits nids bien tapissés de gazon, où l'on aime à se chauffer au soleil par les belles journées d'automne, sans crainte du vent déjà froid qui passe en sifflant sur les herbes frissonnantes du plateau. Quelques-uns de ces trous s'obstruent et se comblent graduellement, mais il en est aussi que nous voyons se creuser et qui chaque année s'approfondissent sous nos yeux. Telle étroite ouverture qui nous semblait une retraite de serpents et dans laquelle, de crainte d'être mordus, nous n'osions mettre le bras, était un commencement d'abîme. Les pluies et les écroulements intérieurs l'ont élargi d'année en année. C'est maintenant un précipice au flanc d'argile rouge raviné par les averses. De ces puits naturels, le plus pittoresque est précisément le plus éloigné de la source. En cet endroit, le plateau devenu plus inégal s'arrête brusquement au pied d'une muraille rocheuse, de l'autre côté de laquelle s'ouvre une vallée déversant ses eaux dans un fleuve éloigné. Les rochers dressent haut, en plein ciel, leur beau fronton doré par la lumière, mais leur base est cachée par un bosquet de chênes et de châtaigniers. Grâce à la verdure et à la variété du feuillage, le contraste trop dur que formerait la brute paroi des rochers avec la surface horizontale du plateau se trouve adouci. C'est au plus épais de ce bosquet que s'ouvre le grand abîme. Sur ses bords, quelques arbustes inclinent leurs tiges vers la trouée d'azur ouverte entre les longues branches de chênes. Seulement un bouleau laisse retomber au-dessus du gouffre ses rameaux délicats. Il faut prendre garde ici, car le sol se dérobe soudain et le puits n'a point de margelles comme ceux que creusent les ingénieurs. Nous avançons en rampant, puis couchés sur le ventre, appuyés sur nos mains, nous plongeons du regard dans le vide. Les murs du gouffre circulaires, çà et là noircis par l'humidité qui suinte à travers la roche, descendent verticalement. À peine quelques corniches inégales se projettent-elles en dehors des parois. Des touffes de fougères, des scolopendres jaillissent des anfractuosités les plus hautes. Mais au-dessous, la végétation disparaît, à moins qu'une plaque rouge, entrevue là-bas dans l'ombre, sur une saillie du roc, ne soit une traînée d'algues infiniment petites. Au fond, tout n'est d'abord que ténèbres, mais nos yeux s'accoutument peu à peu à l'obscurité. Et nous distinguons maintenant une nappe d'eau claire sur un lit de sable. Du reste, on peut descendre dans le puits. Et je suis même de ceux qui se sont donné ce plaisir. Certes, l'aventure offre un certain agrément, puisqu'elle est un voyage d'exploration, mais en elle-même, elle n'a rien de fort séduisant, et nul de ceux qui ont fait cette descente aux enfers ne tient beaucoup à la renouveler. Une longue corde, prêtée par les paysans des environs, est attachée solidement à un tronc de chêne, et plongeant jusqu'au fond du gouffre, oscille doucement sous l'impulsion du filet d'eau dans lequel trempe l'extrémité libre. Le voyageur aérien saisit fortement la corde à la fois des mains, des genoux et des pieds et se laisse glisser avec lenteur dans la bouche ténébreuse du puits. Malheureusement, la descente n'est pas toujours facile. On tournoie sur soi-même avec la corde, on s'embarrasse dans les touffes de fougères que brise le poids du corps, on se heurte maintes fois contre la roche hérissée d'aspérité et l'on essuie de ses vêtements l'eau glacée qui suinte des failles de la paroi. Enfin, on aborde sur une corniche. Puis, après s'être reposé un instant pour reprendre haleine et l'équilibre, on se lance de nouveau dans le vide et bientôt on débarque sur le fond solide. Je me rappelle sans joie mon séjour de quelques instants dans le gouffre. J'avais les pieds dans l'eau, l'air était humide et froid, la roche était couverte d'une sorte de pâte gluante consistant en argile délayée, une ombre sinistre m'entourait, je ne sais quelle lueur blafarde, vague reflet du jour, me révélait seulement quelques formes indécises, une grotte, des pendentifs bizarres, un large pilier. Malgré moi, mes yeux se reportaient vers la zone éclatante qui s'arrondissait au-dessus du gouffre. Je regardais avec amour la guirlande de verdure qui s'épanouissait à la marge du puits, les grandes branches au feuillage étalé que doraient joyeusement les rayons, et les oiseaux lointains planant en liberté dans le ciel bleu. J'avais hâte de revoir la lumière. Je poussais le cri d'appel et mes compagnons me hissèrent hors du trou tandis que je les aidais en poussant de mon pied les saillies de la roche. Naïf jeune homme, je me considérais comme une sorte de héros pour avoir opéré ma petite descente aux enfers, à 30 mètres de profondeur à peine. Je cherchais dans ma tête quelques rimes sur le poète qui se hasarde au fond des abîmes pour y surprendre le sourire d'une nymphe emprisonnée. Et je ne songeais pas aux vrais héros, à ces intrépides mineurs qui, sans jamais réciter de vers sur leurs entrevues hardies avec les divinités souterraines, conversent avec elles pendant des journées et des semaines entières. Ce sont eux qui connaissent bien le mystère des eaux cachées. À côté de leur tête, la gouttelette suspendue aux stalactites de la voûte brille comme un diamant à l'éclat des lampes, puis tombe dans une flaque et rejaillit avec un bruit sec, répercuté au loin dans les galeries retentissantes. Des ruisselets formés de tous ces suintements de gouttes coulent sous leurs pieds et se déversent de rigole en rigole jusque dans le bassin de réception, où la machine à vapeur, semblable à un colosse enchaîné, plonge alternativement ses deux grands bras de fer en gémissant à chaque effort. Au bruit des eaux de la mine se mêle parfois le sourd grondement des eaux extérieures qu'un coup de pioche malheureux pourrait faire s'écrouler en déluge dans les galeries. Il est même des mineurs qui n'ont pas craint de pousser leurs travaux de sape jusqu'au-dessous de la mer et qui ne cessent d'entendre le terrible océan rouler des blocs de granit sur la voûte qui les abrite. Pendant les jours d'orage, c'est à quelques mètres d'eux que les navires viennent se fracasser contre les falaises.